bonsoir à toutes et à tous. Je voulais dès à présent vous remercier pour votre présence et votre participation à ce débat. Lorsque nous avons, avec Olivier Postel-Vinet, qui va animer cette soirée et qui est le fondateur et le directeur du magazine Books, lorsque nous avons, dans le cadre du partenariat avec la Bibliothèque publique d'information, programmé ce débat, l'actualité n'était pas celle que nous connaissons désormais. Nous avons programmé ce débat il y a environ 3 mois sur le dossier de Books qui vous sera présenté au mois de mars prochain. L'actualité nous rattrape et rattrape cette thématique. Je voulais remercier d'ores et déjà Olivier Postel-Vinet d'avoir accepté d'animer ce débat et nos intervenants, bien entendu, que je vais lui laisser le soin de présenter, d'y participer. Merci beaucoup.
Bonjour, je remercie à nouveau la BPI pour son accueil, toujours très chaleureux et sympathique, et l'assistance qui est nombreuse, ce que je conçois, puisque l'actualité, évidemment, entre en résonance avec ce sujet que, comme Emmanuel Payen vient de le dire, nous n'avions pas imaginé, quand nous l'avons conçu, venir rencontrer à ce point l'histoire. Nous avions, pour ceux qui connaissent ce Books, et même ceux qui ne le connaissent pas, nous sommes un mensuel et dans chaque numéro, nous présentons notamment un dossier de couverture, comme tout bon magazine qui se respecte. Et nous avons déjà, donc, depuis 6 mois environ, conçu un dossier sur un thème qui nous intéressait, qui était la façon dont la façon dont les Arabes voient leur histoire, la façon dont les Arabes conçoivent, ressentent, ont écrit sur leur histoire et par contre-coup, la manière dont cette vision peut rejaillir sur notre façon à nous de revoir notre histoire. Puisque, comme certains d'entre vous le savent peut-être, pour donner qu'un exemple qui d'ailleurs ne se trouve pas dans le numéro de Books qui sera en kiosque jeudi, Charles Martel bat les Arabes à Poitiers 732. L'éminent orientaliste Bernard Lewis, l'Américain, a fait une recherche et n'est pas parvenu à retrouver trace de cette bataille dans l'historiographie arabe. Sans doute était-ce considéré comme une défaite qu'il fallait gommer, mais je ne connais pas naturellement la véritable raison. Quoi qu'il en soit, c'était ça, en fait, l'orientation de notre dossier, ça l'est toujours. Mais, bien sûr, l'actualité nous a rattrapés et nous avons donc rééquilibré un petit peu ce dossier pour, en l'accent davantage, comme le débat de ce soir, sur la question de savoir dans quelle mesure l'histoire longue, l'histoire récente, mais aussi l'histoire longue, les différents temps de l'histoire arabe agissent sur les consciences et sur les esprits aujourd'hui, dans quelle mesure cette histoire est présente dans les esprits, dans quelle mesure elle irrigue les mouvements qui bouleversent actuellement le monde arabe. La question étant d'autant plus fascinante peut-être que, comme vous le savez, la majorité des habitants des pays arabes aujourd'hui ont moins de 25 ans et ont forcément une notion de l'histoire qui est partielle. Alors, j'ai invité trois personnes pour débattre. À ma droite, et, Alaa Kodmani. Ensuite, Ahmed Jebar, ensuite Benjamin Stora, trois profils très différents. Je vais leur demander de se présenter rapidement. La règle du jeu que je leur ai proposée et qu'ils ont acceptée est la suivante. Je vais donc d'abord leur demander, comme je viens de le dire, de se présenter rapidement. Ensuite, je referai un petit tour auprès d'eux pour leur demander à chacun d'eux de présenter une idée susceptible de nourrir le débat, après quoi je lancerai la discussion. je conçois cette soirée comme une discussion, pas un débat organisé avec une série de discours, mais vraiment une discussion. Et je vous propose à la salle de ne pas se gêner pour intervenir et poser des questions au cours de la discussion qui va d'abord nous animer nous-mêmes. Et ensuite, je vous passerai complètement la parole de manière que le temps donné à chacun soit à peu près équitable. Alors, à la Côte Béni, vous dirigez un centre de au nom mystérieux.
Bien, ça fait. Merci, Olivier Postelvinet. Merci de votre invitation. Mon nom est Basma Kodmani.
Excusez-moi,
Basma. Et Olivier connaît ma sœur puisqu'elle collabore à Vaux. Alors voilà, j'ai donc
c'est un lapsus.
C'est le prénom de quelqu'un qui n'est pas très éloigné, mais ce n'est pas le mien. Voilà. Je suis donc en charge d'un institut que nous avons créé il y a environ 5 ans maintenant, qui a pour spécificité d'être un groupement ou une fédération d'instituts de recherche du monde arabe. C'est principalement des centres de recherche qui sont basés dans les pays arabes et qui se sont rassemblés pour développer ensemble un programme commun sur les questions de la réforme, avec l'idée qu'il fallait promouvoir la connaissance, le savoir produit par les pays arabes, par des chercheurs arabes, des chercheurs et d'ailleurs des chercheurs engagés souvent, qui sont impliqués dans une activité sociale politique d'un genre ou d'un autre, et qui donc a une série de projets de recherche, de publications, et l'essentiel de la recherche, ou 90% de la recherche, est produite en arabe. C'est pourquoi nous avons choisi ensuite de traduire, donc les choses existent, tout cela existe en anglais, peu de choses en français malheureusement, faute de moyens, il fallait choisir. Donc le centre de gravité de notre opération se trouve dans le monde arabe. C'est donc un institut qui s'appelle l'Arab Reform Initiative, en anglais un centre pour une initiative arabe de réforme, et j'en suis la directrice, la coordinatrice depuis maintenant 5 ans. Voilà.
Je vous remercie. Ahmed Jebar, j'espère que je n'écorche pas votre prénom.
Non, merci. C'est bien Ahmed à la française. Sinon, c'est Ahmed. Je suis Ahmed Jebar, je suis professeur émérite, c'est-à-dire que je travaille beaucoup plus à la retraite et je gagne moins. Et je suis professeur émérite de mathématiques et d'histoire des mathématiques de l'Université des sciences et des technologies de Lille, après avoir été une 20aine d'années maître de conférence à l'Université Paris-Sud ou Paris 11. Je suis spécialiste de l'histoire des activités mathématiques de l'Occident musulman, c'est-à-dire le Maghreb, avec son prolongement de l'Afrique subsaharienne, et ce qu'on appelle Andalus, c'est-à-dire la partie de la péninsule ibérique qui était sous la coupe politique des musulmans. Voilà, et j'ai eu une vie antérieure où j'ai fait de la politique. J'ai été militant d'un parti politique dirigé par le président Boudiaf pendant 10aine d'années, puis ensuite il a été appelé comme président. En 92, j'ai été son conseiller à la culture, à l'éducation et à la communication. Puis j'ai été ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans 2 gouvernements entre 1992 et 1994. Donc j'ai eu une petite expérience politique dans mon pays, l'Algérie. Voilà.
Merci Ahmed Jebar. Benjamin Stora.
Oui, bonsoir. Moi, je suis professeur des universités. J'enseigne à l'université Paris 13, aux langues orientales. Et en ce moment, à l'université de Berlin, la Freie Universität de Berlin. J'enseigne l'histoire du Maghreb contemporain du 19e et 20e siècle. J'ai travaillé dans les années 70-80 sur le nationalisme algérien, le nationalisme maghrébin, en faisant des biographies, notamment celle de Messali, de Ferhat Abbas, dans les années 70-80. Et dans les années 90, j'ai travaillé plus particulièrement sur les mémoires de guerre, la culture de guerre, en particulier la guerre d'indépendance algérienne et la guerre civile algérienne des années 90. Et puis, dans les années 2000, j'ai plus particulièrement travaillé à partir des images, c'est-à-dire sur les documentaires, parce que j'ai fabriqué un certain nombre de documentaires. Donc, en l'espace de 30 ans, je suis passé de la trace écrite à la trace visuelle pour essayer de comprendre les évolutions, notamment du Maghreb, puisque j'ai vécu aussi au Maroc pendant 4 ans, et là, je vis à Berlin. Voilà.
Merci. Alors, conformément donc à ce que je vous avais annoncé, je vais demander, c'est évidemment un peu un piège, à chacun des participants de lancer, enfin c'est un piège aimable, de lancer une idée qui va servir à nourrir la discussion. Basma Khodmani.
Je voulais vous dire d'abord que les Arabes disent dans leur livre d'histoire qu'ils sont arrivés jusqu'à Poitiers.
Ah bon ?
Ils disent qu'ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. Qu'ils ont été battus, c'est autre chose.
D'accord.
Simplement pour commencer peut-être par cette question très problématique pour les Arabes, qui est celle de l'histoire et des archives. Des archives du monde arabe existent très peu, ou des archives dans le monde arabe existent très peu. Et c'est pourquoi nous avons un véritable problème de documentation de l'histoire, et donc une mémoire ou un récit de l'histoire qui est extrêmement subjectif et politisé, puisqu'il est très influencé par la période à laquelle on discute de l'histoire. C'est donc un élément important à prendre en compte. L'histoire du monde arabe est écrite essentiellement à partir des archives françaises, britanniques, l'histoire moderne, et des archives ottomanes, bien entendu, également. Mais on trouve très peu d'archives dans le monde arabe, peut-être à l'exception de l'Égypte, un peu. Peut-être que Benjamin Stora peut nous dire ce qu'il en est pour l'Algérie, et Ahmed Jebar lui aussi. Je sais pour ma part qu'au côté Orient, on a très très peu d'archives qui soient des archives que l'on puisse consulter. Elles existent, mais elles sont mal classées et peu consultables. Pour la référence à notre histoire qui nous ramène aux événements présents, je voudrais simplement dire la chose suivante. Dans le mouvement que nous vivons actuellement dans la plupart des pays arabes, on fait deux constats. Le premier, c'est qu'il y a un tissu social et culturel assez homogène, semble-t-il, puisque ce mouvement se répand d'un pays à l'autre avec un naturel tout à fait surprenant. C'est donc, quand Olivier Postel-Vinet dit l'histoire des Arabes et les Arabes face à leur histoire, il y a bien un ensemble que l'on peut qualifier d'arabes. Et je dirais que le deuxième phénomène, il est surtout dans la dimension générationnelle. La génération qui est la mienne est celle qui a grandi en ouvrant les yeux sur un monde de la défaite de 1967 face à Israël. Et c'est une génération qui ne s'est jamais remise de cette défaite. Une défaite qui a sans doute, qui a d'abord motivé l'arrivée, ou qui a justifié l'arrivée, ou donné des prétextes à l'arrivée de dirigeants militaires et de l'instauration de systèmes autoritaires dans la plupart des pays, mais aussi au niveau des sociétés, un sentiment d'impuissance et un comportement qui suggère l'impuissance pendant de très longues années. Or, la génération que l'on voit arriver aujourd'hui, celle des 20-25 ans, qui est celle qui a fait cette nouvelle tranche d'histoire qui commence avec la deuxième décennie de ce siècle, cette génération-là n'a pas la mémoire de 67. Et je crois que c'est un des aspects les plus importants et les plus frappants pour nous. Elle est beaucoup moins craintive. Et je crois que c'est là qu'elle elle a pris par surprise des dirigeants qui comptaient beaucoup encore sur la passivité et l'impuissance des populations. C'est pourquoi je le dis avec un peu de subjectivité, ceux qui ont vécu la guerre de 67 dans le monde arabe, dans les différents pays, je l'ai vécu pour ma part en Syrie, restent très marqués par cet épisode et ont le sentiment que le monde arabe traversait une longue, longue période vraiment d'impuissance et de déclin qui n'en finissait pas. Et c'est ma génération qui a été la première surprise par les mouvements que nous avons connus. Voilà, je vais laisser les choses à ce point-là pour ne pas en dire trop longtemps.
Basma Khodmani a d'ailleurs écrit un article sur ce sujet dans le Monde diplomatique qu'on peut lire aujourd'hui, qui est disponible en ligne. Ahmed Jabbar.
Moi, je n'ai pas préparé d'intervention ni de thème privilégié. Je suis ballotté par l'actualité, comme vous tous. La seule différence, peut-être, c'est que je suis ballotté avec la subjectivité d'un citoyen d'une république de l'autre côté de la Méditerranée et une république dans un espace qui est l'espace maghrébin, où se posent, en plus des problèmes que se posent les sociétés arabes, évidemment, d'autres problèmes, à la fois pour des raisons historiques et pour des raisons aussi sociales. Par exemple, un problème qui ne se pose pas dans les pays d'Orient, c'est le concept d'arabité. Il est vécu par des communautés de ces sociétés du Maghreb, moins en Tunisie. Il est réellement vécu, il a des prolongements politiques, des prolongements idéologiques, des prolongements culturels, et il a des prolongements au niveau du comportement des individus, des citoyens. Ça, c'est une question qu'on ne peut pas éluder. Et pourquoi ? Parce que c'est une question qui est instrumentalisée, en particulier pour contrer des mouvements qui sont fondamentalement et potentiellement démocratiques. Et donc il y a ce premier point. Le deuxième point, je souhaiterais qu'on aborde ce point-là, c'est la relation d'un citoyen de ces pays qu'on dit arabes avec son histoire, avec leur histoire. Pour le Maghreb aussi, il y a une spécificité au niveau de ce rapport avec l'histoire. Quelle histoire ? Est-ce que c'est l'histoire des Arabes ? Est-ce que c'est l'histoire des musulmans ? Est-ce que c'est l'histoire des autochtones anciens avant l'arrivée des musulmans ? Est-ce que c'est l'histoire de l'Afrique ? Il y a des choses qui existent, qui sont plus ou moins dites, mais qui ne circulent pas entre « arabes », entre guillemets. Et donc, là aussi, c'est un problème qui, peut-être, interviendra dans les débats lorsque les mouvements seront de plus en plus puissants dans la région du Maghreb, où il semble que le calme règne encore. Pour combien de temps, on ne sait pas. Et pourquoi, d'ailleurs, ça c'est le dernier point. Moi, je souhaiterais qu'on discute de pourquoi, compte tenu de ce qui unit ces peuples arabes dans leur histoire noire, si j'ose dire, avec les dictatures, pourquoi ce qui les unit fait qu'il y a quand même des spécificités qui se voit dans le rythme de la contestation, dans la nature de la contestation et dans la manière dont se comportent les pouvoirs qui essaient de se maintenir. Ça aussi, c'est lié à des spécificités culturelles, historiques, actuelles aussi, liées à la place de chaque pays dans la mondialisation et puis à l'histoire récente de chaque pays. L'Algérie a une histoire récente qui est tout à fait spécifique, l'histoire de la guerre de libération nationale, ce que nous appelons la guerre de libération nationale, de l'autre côté de la mer, et l'histoire des années noires, comme on les appelle en Algérie. Parce qu'en Algérie, les gens avec qui je discute ne parlent pas de guerre civile. C'est un concept qui a été fabriqué ici à Paris, à mon avis. Ils parlent des années noires. Et donc, ça donne une spécificité à la société algérienne dont il faut tenir compte si on veut essayer de comparer, disons, les mouvements actuels dans les pays arabes.
Merci, Ahmed Jabbar. Benjamin Stora, c'est votre tour.
Il faut être très bref, donc, une idée, ce qu'on nous a demandé. Moi, je voudrais qu'on réfléchisse peut-être ce soir sur le titre même de la revue Les Arabes face à leur histoire. Peut-être que l'actualité nous oblige à dire aujourd'hui les Arabes dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont en train, ils sont pas simplement face à une histoire qui leur est, disons, étrangère, mais ils sont en train de faire l'histoire, donc ils sont dans une histoire en train de se fabriquer. Pourquoi je dis cela ? C'est parce que j'ai le sentiment que ce que nous vivons actuellement, dans ce qu'on appelle le monde arabe, c'est en fait une reprise d'histoire. C'est-à-dire le fait que les histoires qui avaient commencé notamment pour dégager la présence étrangère coloniale dans les années 50, c'était une histoire victorieuse. C'est une histoire collective, une histoire d'élan contre les Britanniques, contre les Français, etc., notamment en Égypte, au Maroc, en Algérie, bien sûr, etc., et qui avait le sentiment que cette histoire, disons, de ces années-là, se faisait sur un mot d'ordre unificateur qui était contre la présence étrangère, sans programme politique d'établissement d'une suite d'histoire. Je dis cela en référence avec ce qui se passe en ce moment aussi, parce qu'on dit qu'est-ce qu'il y a après, etc. Mais à l'époque, c'était ça. C'est-à-dire, l'histoire, c'était d'abord les indépendances politiques, et qui se sont conclues par, effectivement, des victoires, mais dans le vide idéologique se sont engouffrés des États centralisés, qui, eux, ont prôné, dans ce vide idéologique, la nécessité d'avoir des États très centralisés, très autoritaires. Moi, je parle de reprise d'histoire parce que la question n'est pas la centralité des États aujourd'hui, mais la construction de la nation telle qu'elle a été laissée au moment des indépendances, c'est-à-dire la reprise d'histoire. C'est-à-dire ne plus réfléchir à la question des États centralisés, autoritaires, mais le problème de la reconstruction, construction de la nation dans sa pluralité et dans sa diversité, dans ses singularités. Cette idée, à mon sens, est fondamentale. Quand je vois les gens brandir les drapeaux de chacun des pays aujourd'hui, et y compris d'aller se réapproprier d'autres histoires antérieures, des histoires, disons, y compris des années 50, je me dis qu'il y a cette volonté, peut-être, qu'évoquait Basma tout à l'heure, de dépasser ce traumatisme de milieu d'histoire de la question du conflit israélo-arabe. C'est-à-dire qu'on revient aux années 50. Quelque part, on reprend l'histoire, là où elle s'était arrêtée. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de reprise d'histoire et de reprise de cette histoire autour de la question de la nation et autour de la question du drapeau. Moi, c'est ce point de basculement qui m'intéresse. C'est cette question-là, je veux dire, qui m'intéresse aujourd'hui dans ce qu'on est en train de vivre, qui me paraît important. Alors, il y a énormément d'autres points qu'on pourrait soulever, les archives, les historiens du monde arabe. Où sont-ils? Comment écrivent-ils ces histoires, entre guillemets? On pourrait aussi évoquer, bien sûr, toute une série d'autres problématiques sur le fait que dans ces mouvements actuels, c'est la chute aussi de ce qu'on appelle les aïm, les hommes forts, qui sont tombés. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi dans l'imaginaire politique arabe. Il y a plein de, comme ça, de questions en tiroir, en cascade, qui viennent de par cette histoire que nous vivons, qui est en train de se faire. Mais la question qui m'intéresse, moi, c'est le fait qu'il y ait ce mouvement collectif de reprise d'histoire là où elle s'était arrêtée pour la recommencer sur un plan positif, c'est-à-dire sur le plan de la redéfinition des nations aujourd'hui, c'est-à-dire en Égypte, en Libye, en Algérie, au Maroc, c'est-à-dire comment on passe à la démocratie politique en restaurant le lien national, en refabriquant du lien national. Je crois que c'est ça qui, moi, m'intéresse aujourd'hui.
Merci. Alors, il y a deux mots. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, bien sûr. Je rebondis sur deux mots qui ont été prononcés, l'un par Ahmed Djebbar, l'autre par Benjamin Stora. C'est le mot « arabité » d'un côté et le mot « nation » de l'autre. Je voulais demander peut-être de manière liminaire ou post-liminaire à Ahmed Djebbar de nous replacer très loin en arrière, c'est-à-dire à l'époque de la constitution de ce qu'on peut considérer peut-être a posteriori, mais vous me direz si c'est juste ou non, d'une nation arabe, ce moment où, après la mort de Mahomet, les guerriers bédouins sont partis à la conquête de terres lointaines et relativement peu de temps ont établi un premier royaume puis un deuxième royaume qui est finalement devenu un empire comparable par son étendue à l'empire romain et par ailleurs à bâtissant au passage ou une civilisation extraordinaire qui est devenue le centre de gravité de la culture pendant plusieurs siècles dans le monde, à l'exception de la Chine, si on fait abstraction des mondes chinois. Et alors, d'abord, est-ce que ça a un sens de remonter à si loin dans l'histoire par rapport aux événements d'aujourd'hui? Première question. Saddam Hussein se référait à Nabucodonosor, j'irai peut-être pas jusque-là, mais malgré tout, est-ce que ça a un sens? On voit par exemple que dans les pays du Maghreb, l'iconographie des croisades est présente. Les croisades sont venues s'insérer au milieu de l'histoire de l'Empire arabe. Et est-ce que, d'autre part, ce point de départ de l'histoire de l'arabité, ce point de départ glorieux, extraordinaire, n'est pas toujours présent dans l'esprit de la collectivité arabe aujourd'hui comme étant, d'une certaine façon, le nadir d'une série de défaites, d'humiliations qui vont des conquêtes ottomanes jusqu'à l'intervention des États-Unis en Irak. C'est une question à tiroir, je vous le reconnais.
La question est très difficile. Et puis elle pousse le débatteur plutôt à tenter de faire une conférence, comme ça nous est interdit. Donc...
Je vous prie de m'en excuser.
Non, d'abord, je dois dire que la grande aventure qui a commencé après la mort du prophète en 632 et qui s'est poursuivie jusqu'en 751 sur le plan strictement militaire, ensuite qui s'est poursuivie sur le plan économique jusqu'à la perte du monopole du commerce méditerranéen à cause de l'intervention puissante de certaines villes d'Italie, comme Venise, puis qui s'est poursuivi plus tard, beaucoup plus tard, jusqu'à l'arrivée des Ottomans. Dans toutes ces phases, l'arabité n'a jamais été majoritaire, sauf dans l'expression et la culture des élites. Mais cette expression et cette culture des élites a été un moteur puissant. Ce n'est pas, en disant ça, ce n'est pas diminuer l'importance de l'arabité. Cette arabité, comment elle a été vécue? Elle a été vécue effectivement comme étant culturelle, même quand on n'est pas arabe ethniquement parlant, ou quand on le revendique de ne pas être arabe, comme les Persans par exemple, comme les Berbères dans la partie entre le 8e siècle et le 14e, 15e siècle. Et donc cette arabité a été une arabité dynamique qui va donner un statut aux citoyens qui étaient les acteurs de cette aventure, de cette peut-être triple aventure, aventure militaire, ensuite aventure scientifique, aventure économique, et puis au sens général, le quatrième dimension, c'est l'aventure culturelle. Et je donne l'exemple certaines dynasties maghrébines qui ont toujours été les porte-drapeaux de l'arabité au sens culturel, mais qui n'ont jamais délaissé leur berbérité au Maghreb, comme en Perse, on n'a jamais délaissé sa persinité, si j'ose dire. Ce n'était pas contradictoire. C'était une sorte de complément, sauf pour quelques courants qui vont se développer, effectivement, comme celui qu'on appelle la Chouaoubia à un moment donné, mais plutôt en Orient, pas au Maghreb. Donc, cette chose qui est un peu bizarre, qui est que on est en fait... Ces espaces ont produit des acteurs d'une histoire dont la particularité la plus importante, la plus fédératrice, ce n'était pas l'arabité, mais l'islamité. Mais cette islamité s'exprimant en arabe, à travers à la fois une culture, à travers un discours politique, idéologique, religieux, etc. Donc il y a cette ambiguïté qui s'est perpétuée jusqu'au moment où, quand on arrive donc dans les années précoloniales, où on se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'être arabe au Maghreb, par exemple. Moi, personnellement, quand je me réveille tous les matins, je me pose la question de quelle est la nature et le degré de mon arabité. Je suis d'une région berbère, qui est le Dahra, à l'ouest d'Alger. Je suis d'une famille qui se dit arabe et qui assume son arabité et qui se dit issue d'une tribu arabe venant du Yémen. Mais cette propre famille, ces chefs, qui sont des chefs religieux, n'ont jamais hésité à épouser des femmes berbères de l'autre versant de la montagne. Donc je suis arabe par le versant continental et berbère par le versant maritime, dans la région qui va de Cherchel jusqu'à Beni Hawa Gouraya. Bien. C'est la région d'ailleurs de Asia Djebar, qui est l'écrivain bien connu, mais dont le nom n'est pas le mien, puisque elle, c'est un pseudonyme, et moi, c'est le nom, effectivement, d'une tribu qui serait arrivée au Maghreb au XIVe siècle. Bien. Donc, cette arabité, elle est en mouvement dans la société. Et à travers cet exemple, on le voit bien, mes oncles, jusqu'à aujourd'hui, quand ils ont les moyens, bien sûr, ils ont la tentation d'épouser une arabe, entre guillemets, une femme du versant continental, et une berbère, une femme du versant maritime, et qui parle berbère. Et puis ensuite, qui s'arabise. Donc il y a le processus d'arabisation directe par le mariage, et puis surtout par les enfants. Tous les enfants vont devenir arabes. Et donc les enfants vont oublier leur berbérité, qui est à peine, qui existe et qui est vécu à peine à 2, 3 km, 5 km, 10 km de l'autre côté de la montagne. Dans ce sens-là, je suis berbère peut-être beaucoup par ma mère et arabe beaucoup par mon père. Et ceci va être doublé par une dimension religieuse qui va compliquer les choses. Je suis beaucoup plus musulman par mon père et beaucoup plus païen par ma mère, parce que le paganisme maghrébin a survécu à 8 siècles d'islam, et il a survécu à la fois dans le comportement, dans les formulations, dans un rituel monothéiste et païen, et jusqu'à aujourd'hui. Et donc nous avons grandi dans cette chose complexe, qui est que nous parlons l'arabe. Nous avons un islam tolérant, très tolérant, et teinté du côté des femmes d'un paganisme qui est très vivant et qui s'accommode de cette complexité monothéiste. Voilà un peu ce que je voulais dire au départ. Alors, pour revenir aux choses les plus fondamentales liées à l'histoire des sociétés, l'histoire de la civilisation de l'islam n'a pas été seulement l'histoire de cette arabité qui va travailler les populations, l'histoire de cette islamité qui va travailler les populations, mais il y a aussi l'histoire culturelle. Or, l'histoire culturelle est beaucoup moins bien connue. Et l'histoire culturelle montre que parmi les facteurs qui ont unifié cette immense population qui va de Samarcande à Saragosse, de Palerme à Tombouctou, et dont la majorité n'est pas arabe, je le redis, les facteurs d'unité, paradoxalement, et j'assume ce que je vais dire, c'est essentiellement l'économie et les sciences, les activités économiques et les activités scientifiques. Je m'arrêterai là et puis ensuite je continuerai.
Oui, encore que vous nous mettez un peu l'eau à la bouche, parce que ça nous intéressera, mais effectivement, on va donner la parole à vos voisins. Mais moi, ça m'intéressera qu'on revienne là-dessus et que vous expliquiez en quoi c'est l'économie et les sciences qui étaient le ciment de cette unité. Est-ce que l'un de vous deux souhaite réagir sur ce que Ahmed Djebbar vient de dire, Basma?
Oui, moi je voudrais simplement réagir sur un propos qui est à la fois celui de Benjamin Stora et de Ahmed Djebbar, celui de l'arabité étant une définition identitaire, pour dire la chose suivante. Nous avons passé probablement une trentaine d'années dans la période que je décrivais tout à l'heure comme étant celle 40 ans, la période qui suit pour le Moyen-Orient, la guerre de 67, mais de façon générale, dans les 30 dernières années, le pouvoir centralisé que décrivait Benjamin Stora, c'est l'instauration et la consolidation de systèmes politiques autoritaires. Et en parallèle de cela, une stérilité de l'espace politique qui faisait qu'on s'interrogeait beaucoup sur l'identité qui n'était justement pas en mouvement. Quand Ahmed Djebbar dit le mot mouvement est absolument vital pour que ces questions identitaires ne deviennent pas assassines, ne deviennent pas violentes. Or, ce que nous avons vécu, c'est un enfermement et une stérilisation d'un espace qui faisait que les identités multiples devenaient toutes sources de conflits, de tensions et de divisions. Et ce sont les démons, comme toutes les nations ont leurs démons, nos démons sont ceux-là. Or, dans les 15 ou 20 dernières années, on s'est enfoncé beaucoup plus profondément dans ces problèmes de division. Il est vrai qu'on renvoyait aux Arabes une image d'eux-mêmes qui était « vous êtes des mosaïques composites, on ne te reconnaît pas ». Plus rien, puisqu'il y a des chiites et des sunnites et des chrétiens de toutes sortes d'églises différentes, et bien sûr des musulmans, vous avez des Kurdes et puis des Arabes et des Berbères et des Arabes. Alors, avec autant de définitions identitaires qui aucune ne permet d'avancer quand on a ce type de présentation, si vous voulez, ou de définition de l'identité, ça contribuait et ça participait d'une passivité des sociétés. Or, le mouvement que l'on voit aujourd'hui, et se référer au drapeau est une chose tout à fait exacte, c'est justement dépasser ces démons-là. C'est dire, s'il y a eu un attentat au Caire un mois avant le début du mouvement, contre une église copte, c'est trop, on s'enfonce de plus en plus dans ces identités assassines. Alors, il y a beaucoup d'auteurs, comme vous le savez, qui ont produit des quantités de livres, de romans et d'histoires sur les questions identitaires. Je pense à Malouf qui a produit Les identités meurtrières. C'est tout à fait illustratif de cette difficulté ou cette stérilité de la définition identitaire dans laquelle nous vivions. C'est pourquoi je crois qu'il y a un très grand enthousiasme aujourd'hui devant ces mouvements de population spontanée et maintenant structurée, qui se revendiquent d'abord d'une identité démocratique. C'est-à-dire que c'est sortir de ces enfermements identitaires et aller vers une définition très moderne de la citoyenneté. On ne veut plus se préoccuper de savoir si on est chiite, sunnite, chrétien, musulman, kurde ou arabe, berbère. Tout cela n'a servi strictement à rien, n'a servi qu'à reculer au cours des quelques décennies que nous venons de passer. C'est pourquoi il y a ces mouvements sont porteurs d'un très grand espoir.
Peut-être Benjamin Stora.
Enfin, c'est plutôt une série de questionnements qu'on peut avoir ce soir par rapport à l'histoire qui est en train de s'accomplir. C'est compliqué parce que ça va très très vite en plus. Moi, j'ajouterais à ce que disait Ahmed Djebbar sur les différents facteurs pour essayer de comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui le monde arabe. Moi, je crois qu'il y a un facteur central quand même, c'est le facteur politique, tout simplement. Il y a le facteur économique, culturel, linguistique, religieux, etc. Mais il y a le facteur essentiellement politique. Le nationalisme arabe est une construction politique qui s'est imposée comme une idéologie politique centrale à partir des années, comme on le sait, 1930, 1950. C'est quand même une idéologie forte qui a été le soubassement idéologique de la centralité au niveau nationaliste et de rattachement des différents nationalismes, disons, à un seul type de nationalisme politique. Donc c'est quand même aussi ce nationalisme arabe qu'il faut questionner aujourd'hui. Je veux dire, il doit y avoir un questionnement sur cette question du nationalisme arabe sur le plan politique. Ça, c'est une première interrogation sur, dans le fond, qu'est-ce que c'est le nationalisme arabe sur le plan politique aujourd'hui, dans la situation que nous traversons. La deuxième chose, bien sûr, est là pour poursuivre cette réflexion sur le problème des identités meurtrières et, et de sortie, ou de tentative, disons, de sortie de ces, de cette façon de raisonner, et donc du passage à la question moderne, hein, de la démocratie politique, il y a des choses qui me paraissent tout à fait évidentes et simples dans les mouvements auxquels nous assistons aujourd'hui. C'est tout simplement le fait d'avoir des parlements, des gouvernements, des premiers ministres identifiables, c'est-à-dire le passage à une démocratie représentative, tout simplement. Je veux dire, c'est des choses très très simples, ce qu'on pourrait appeler les constituantes. C'est-à-dire des constituantes qui, dans le fond, au moment des indépendances politiques, ne se sont pas réalisées. C'est-à-dire le problème des constituantes, c'est-à-dire de former des constitutions à partir de partis politiques pluriels, mais sur la base de principes citoyens, dans le fond, les constituantes ont été évincées dans le passage aux indépendances politiques. Et toutes les oppositions qui se sont créées dans les années 60, et qui revendiquaient quoi ? Ben, qui revendiquaient tout simplement la pluralité politique. La plupart des oppositions qu'on a vues au Maroc avec Mehdi Ben Barka, en Algérie, on en parlait tout à l'heure avec le PRS de Boudiab, d'Aït Ahmed, le FFS, ou en Tunisie avec Salah Ben Youssef. Enfin, je ne vais pas faire la liste, hein, de toutes les oppositions. C'est quoi ? C'était des oppositions qui disaient, grosso modo, ce qu'on veut, c'est une pluralité politique. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour tout celui qui n'éprouve pas, qui n'adhère pas, ou qui n'a pas les mêmes origines, ou qui n'a pas le même programme, de pouvoir discuter, je veux dire, d'égal à égal. C'était pas possible. Je veux dire, cette question de la pluralité dans l'espace public était quasiment impossible parce que la question centrale, c'était celle de la nation une sur la base d'un État centralisé, autoritaire, qui décidait de tout. Et que celui qui remettait en question l'idée de la centralité de l'État introduisait la notion de fissure et donc de trahison possible, et donc de destruction possible de l'État-nation considéré comme un. Aujourd'hui, c'est ça qui se discute, à mon avis. C'est ça qui se discute. C'est-à-dire la possibilité, dans le fond, des apprentissages démocratiques, citoyens, dans des constituantes, c'est-à-dire c'est des revendications exprimées aujourd'hui, hein, dans des pays comme l'Égypte, comme la Tunisie. C'est le passage aux constituantes, c'est-à-dire bon, le passage aux espaces publics pluriels. Je crois que cette interrogation-là, elle est fondamentale. Et enfin, troisième interrogation, parce que je parlais tout à l'heure du nationalisme arabe, facteur constitutif, hein, comme idéologie politique de cette centralité qui a renforcé tout cela. Il faut aussi réfléchir, je veux dire, à un autre aspect, disons, qui est important, sur le problème des rapports entre islam et politique. Parce qu'on a beaucoup eu en France, en Europe, en Occident, je ne sais pas comment il faut appeler ça, tous ces 30 dernières années, beaucoup d'experts de l'islam et de l'islamisme politique, et pas d'experts, entre guillemets, des sociétés réelles. Si vous regardez le nombre d'expertises, de livres, d'ouvrages, de thèses, de travaux, etc., sur la question de l'islamisme aujourd'hui, enfin, depuis 30 ans, c'est énorme. Mais si vous consultez, et si vous vous amusez à consulter des gens qui travaillent sur les mouvements de femmes, les syndicats, les jeunes, il y en a très peu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de survalorisation dans les travaux académiques, les travaux de recherche dans les 20 dernières années, peut-être en prise avec un phénomène réel, j'en sais rien. Mais le fait est que quand tout ça s'est effondré, dans le fond, on connaissait mal les sociétés réelles. C'est-à-dire tout simplement ce que disaient, ce que pensaient les gens, quoi. C'est en termes, disons, démocratiques, d'individualisation, de rapport à la consommation, de rapport à la sexualité, de rapport à l'Occident, etc., etc. Dans le fond, on ignorait ça. Je veux dire, et on le découvre là, maintenant. C'est sous nos yeux que cette découverte est en train de s'accomplir, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les sociétés réelles, en train de faire de l'histoire. Donc il faut aussi s'interroger sur la façon qu'on a eue de percevoir de manière exclusive des sociétés. Là, c'est un peu pour poursuivre la réflexion de Ahmed Jabbar, sur la façon qu'on a eu de percevoir ces sociétés dans ce couple nationalisme arabe-islamisme politique, une espèce de couple qui était celui permettant de manière exclusive de regarder ces sociétés. Voilà. On ne pouvait pas sortir de ce couple-là. Ce n'était pas possible. Eh bien, non, il y avait l'économie, il y avait la science, il y avait la culture, il y avait des tas de facteurs, enfin, sur le rapport entre hommes et femmes, sur la question de la famille, le problème de la démographie, enfin, tous ces paramètres absolument simples. Ce n'est pas des choses absolument extraordinaires, hein, c'est des choses très simples. Or, tous ces paramètres nous disaient une seule chose. C'était le décalage entre ces États autoritaires, vieillissants, de vieilles générations, enfin, issus d'ailleurs de la plupart des guerres d'indépendance, au pouvoir depuis 40 ans, avec une nouvelle société éduquée, alphabétisée, citadine, qui n'est plus rurale, avec une culture urbaine, dans un rapport différent, disons, à la famille, à la démographie, à la sexualité, à tout ce qu'on voudra. Il y avait toute une société qui devenait totalement et qui rentrait pleinement dans une espèce de modernité, mais qui devenait totalement contradictoire avec le côté archaïque, mais archaïque vraiment, hein, je veux dire, des systèmes de fonctionnement des États et des pouvoirs politiques, totalement archaïque. Et ce divorce-là, dans le fond, ben on ne l'a pas vu, quoi. Il faut dire la vérité. Hein. Je veux dire, cette façon de regarder, disons, ces sociétés, ben on l'a pas, on s'est pas donné, peut-être par paresse intellectuelle, par stéréotype, tout ce qu'on voudra, et on ne s'est peut-être pas donné les moyens de la regarder réellement. Voilà.
Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Benjamin Mastora ?
Oui, oui.
Et vous ?
Oui, moi, je veux dire, le nationalisme, on le croyait mort dans cette... Dans le monde arabe. Et c'est vrai que pour ceux qui... Le nationalisme était la forme de modernité adoptée au lendemain des indépendances. C'était avec le nationalisme que l'on dépassait les différences infranationales, c'est-à-dire les identités primordiales dont on parlait tout à l'heure. Or, ce nationalisme a régressé jusqu'à n'être plus qu'à une référence d'une certaine élite qui en parlait encore, mais l'identité... s'exprimer beaucoup plus en termes religieux, et pour ceux qui ne sont pas ne participent pas de cette religiosité, c'était assez difficile. On ne pouvait même pas dire qu'on était laïque. Le mot laïque devenait un mot suspect parce que il fallait d'abord être un bon musulman. Or, je crois que l'une des grandes surprises du mouvement que l'on voit actuellement, c'est que la religion n'est pas là. C'est le retour du politique. Et du coup, plus il y a de politique et moins il y a de religion. Et donc, pour ceux qui ont travaillé sur ces sujets, on savait que c'était l'absence du politique qui faisait que la religion occupait tout l'espace public. Mais il est vrai qu'inversement, aujourd'hui, dès qu'il y a plus de politique, il y a vraiment beaucoup moins de religion. Et il y a... Bien sûr, il y a une revendication même de la fraternité entre chrétiens et musulmans, entre les différentes confessions, etc. Les peuples disent en Égypte, le peuple veut la chute du régime. Dans un pays comme le Liban, qui est gouverné par le confessionnalisme, le dernier slogan, c'est « le peuple veut la fin du confessionnalisme ». En disant, s'il y a un dictateur en Égypte et un en Tunisie, il y en a 128 au Liban, parce qu'il y a des chefs qui sont pour chaque petite communauté, chaque région. Donc, il y a une réappropriation de l'espace national, alors non pas sous forme de nationalisme au sens agressif du terme, parce que le mot nationalisme aussi était suspect. C'est en tout cas ce que l'Europe projetait vers le monde arabe. C'était votre nationalisme est agressif, il est expansionniste parfois. L'illustration de cela, c'était Saddam Hussein qui a lancé une première guerre puis une deuxième et qui était considéré comme un régime nationaliste. Donc le nationalisme devenait suspect et avait une dimension, il est vrai, totalitaire et donc avait des résonances qui en Europe étaient bien entendu très mal vues. Et c'est aujourd'hui un nationalisme qui, c'est vrai, renoue avec celui des indépendances, mais il ne s'exprime pas pour l'instant en termes de nationalisme au sens d'une grande nation arabe. Au contraire, on a une référence assez naturelle à l'espace national, aux frontières des États, mais avec une recomposition de cet espace intérieur national que réclament les sociétés. Je crois que c'est ça qui est aujourd'hui le plus intéressant, c'est totalement le retour du politique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la gestion des questions politiques était faite par, d'une part, l'instrument sécuritaire, une manifestation, une grève, une tension interreligieuse, une expression, une revendication de tout ordre. Tout cela était traité par le sécuritaire. Et d'ailleurs, en général, les ministères de l'Intérieur et les forces de sécurité étaient submergés parce qu'ils devaient traiter des questions qui n'étaient pas de leur ressort, mais parce qu'il n'y avait pas de gestion politique de ces questions-là. Donc nous avions un traitement d'une part sécuritaire de tous les problèmes de la société, et ce qui n'était pas traité par le biais sécuritaire était traité par le biais des religieux, c'est-à-dire les représentants de la religion. L'Église, d'une part, pour les communautés chrétiennes, et puis tous les réseaux, la mosquée et les chefs religieux pour les musulmans. Or, c'est l'enfermement des communautés sous la coupe de l'influence de chefs religieux qui sont, à mon avis, par excellence, les champions du clash des civilisations, du choc des civilisations, parce qu'ils cultivent justement l'identité religieuse exclusive de l'autre. Et on avait atteint un degré d'exclusion et de rejet de l'autre, et d'ailleurs d'ignorance même de l'autre, parce que quand vous prenez sur 20-25 ans un système qui est géré, chaque communauté étant gérée par ses chefs religieux, on s'installe dans des systèmes éducatifs où on ignore tout de l'autre. Et on pouvait entendre des énormités de la part d'un chrétien à propos des musulmans ou des musulmans à propos des chrétiens. Ça devenait totalement absurde. Or, ce sursaut aujourd'hui, encore une fois, c'est... tout d'un coup, on a l'impression que tout cela éclate et que cet espace public qui était investi par des religieux et qui était physiquement occupé par les forces de sécurité, parce qu'on n'avait pas le droit à la rue, on n'avait pas le droit à manifester, à se rassembler, à s'approprier la rue. La rue était la propriété des forces de sécurité. Face à tout cela, on voit, je crois, physiquement une reprise en main de la rue par la population, disant ça, c'est un espace public. Et dans l'espace public, ce sont des règles politiques qui doivent réglementer cet espace. Et je crois que c'est là encore un des signes les plus positifs, les plus intéressants, les plus modernes finalement. C'est l'expression d'une modernité que l'on ne soupçonnait pas, qu'elle pouvait arriver aussi brutalement.
Alors je vais me faire l'avocat du diable, pour mettre un peu d'huile sur le feu. C'est pas la première fois qu'on assiste à des mouvements démocratiques dans les pays arabes. Je pense que vous en savez plus que moi sur le sujet, mais il est clair qu'à différentes époques, les aspirations démocratiques se sont manifestées de manière forte, au moins dans certaines parties du monde arabe. Et d'autre part, le monde arabe n'a pas l'expérience de la démocratie, à l'exception du Liban que vous évoquez, mais il n'y a pas vraiment d'expérience de la démocratie. Donc qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui... J'entends bien ce qu'a dit Benjamin Stora. Je pense que c'est la réponse, bien sûr, va dans ce sens. Mais qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui les choses seraient ou sont radicalement différentes de ce que le monde arabe a pu connaître à d'autres époques?
Moi, je pense, si je puis me permettre, que effectivement, si on voit un peu plus loin, et si on se souvient de ce qui s'est passé avant, dans les deux dernières décennies, en Égypte, en particulier en Algérie, je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est la mort de l'islam politique, ni même de sa régression. Je pense que l'islam politique va s'adapter à la situation nouvelle. Je pense aussi que son fonctionnement, ses conceptions sont telles que on peut considérer qu'il a été à un moment donné, d'une certaine manière, un allié objectif des gouvernants pour stopper le processus démocratique, et que dans cette longue période où il a été l'allié objectif, je dis bien l'allié objectif, ils n'ont pas signé de contrat. En fait, cela a permis à l'islamisme politique d'avoir une avance qui l'autoriserait aujourd'hui à, en fait, se contenter d'une victoire qui n'est pas une victoire politique et qui serait plutôt une victoire sociale et culturelle. C'est-à-dire que si on veut utiliser une image rapide, on peut considérer que Prenons l'exemple de l'Algérie. L'islamisme, quelles que soient ses tendances, a subi une défaite politique face au pouvoir institutionnel, face aux gouvernants, mais il a gagné une bataille, qui est l'emprisonnement des nouvelles générations, de grandes parties de nouvelles générations, dans une bulle culturelle et une vision du monde que l'on ne peut pas percevoir d'ici tant qu'on ne fait pas parler ces générations. Et cette bulle, elle est liée aussi à une certaine conception de l'histoire. Je reviens donc à mon domaine. Il y a des franges entières qui se sentent beaucoup plus proches des événements du 8e, 7e siècle dans leur aspect strictement culturel, théocratique, au sens donc religieux, que plus proche de ça que des événements qui ont permis la révolution algérienne et puis l'indépendance. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'islamisme politique a connu une conjonction avec les gouvernants qui, eux, sont, sans être laïcs, sont séculiers, une conjonction dans, justement, l'enfermement de ces sociétés dans un nationalisme donné. Et ce nationalisme fait qu'on a coupé des populations entières de leur histoire qu'ils partageaient avec les Arabes, précisément d'Orient, avec les Persans, avec les Africains d'Afrique subsaharienne, et on a forgé une nouvelle citoyenneté construite sur un nationalisme très étriqué et très pauvre culturellement et très pauvre au niveau de la mémoire historique. Lorsque on arrive à une situation où, à la sortie d'une de mes conférences, un jeune homme vient, le visage absolument, disons, attristé, me dire « Mais monsieur le professeur, vous avez, pendant votre conférence, parlé trois fois des chiites. » Les chiites étant une orientation religieuse, bien connue, minoritaire, jusqu'à aujourd'hui. Elle a toujours été minoritaire, bon. Mais je lui dis « Mais pourquoi vous me posez la question ?» Il me dit « Parce que on s'est demandé avec mes amis si vous n'étiez pas chiite. » Je lui dis « Et alors, et si je l'étais ?» Sous-entendu, si j'avais été chiite en 2010, hein, ça se passe en 2010, ma crédibilité en tant que professeur parlant d'histoire des activités scientifiques dans un empire monde, ma crédibilité serait un peu érodée. Or, c'est un jeune homme qui a été formé normalement dans une société donnée à l'école. Alors là, le grand problème, si vous voulez, quand on veut aussi parler de ces bouillonnements, ce bouillonnement, moi je le vois comme étant un bouillonnement contre l'injustice, la hogra, contre la situation économique, contre le système politique. Mais comme l'a dit M. Benjamin Stora, c'est comme le lancement, au moment du lancement de la guerre de libération nationale, les gens ne savaient pas où ils allaient. Mais quand on ne sait pas où on va et qu'on a quand même quelques réserves, c'est-à-dire une culture démocratique ou une mémoire, on peut, et puis surtout une pratique de la discussion, de l'échange, on peut éventuellement commencer à élaborer son avenir, puis ensuite le mettre en pratique. Quand on est devant des générations, la majorité de la population, disons 70%, a moins de 30 ans, devant des générations qui n'ont connu qu'un nationalisme étriqué, je parle du Maghreb, complètement étriqué, à tel point que l'histoire médiévale enseignée en Tunisie, au Maroc, en Algérie, n'est pas la même. Alors que ce Maghreb a eu une même histoire. Et donc, ça va avoir un impact. L'aspect positif de ces soulèvements, c'est qu'effectivement, ce sont ces soulèvements qui donnent l'impression qu'ils dépassent précisément dans leur révolte, dans leur expression, le cadre strictement, à la fois géographique, donc des États, et le cadre nationaliste. Je pense que c'est une des conséquences de la mondialisation. On dit toujours du mal de la mondialisation. Je pense que cette jeunesse, dans sa vie de tous les jours, voit comment le monde vit. Et je pense qu'elle a récupéré quelques éléments. Bien sûr, elle n'a pas les éléments d'analyse pour voir que la mondialisation a des aspects tellement négatifs qu'on peut considérer qu'une des raisons du gel aussi, donc du gel de la démocratie dans ces pays, c'est précisément aussi la mondialisation ou telle qu'elle est conçue au niveau du quotidien. Il faut quand même vous dire que, si je prends l'exemple de mon pays, si vous allez au fin fond des villages ou dans les familles, depuis des années et des années et des années, on ne s'est jamais empêché de parler librement. Donc si la démocratie, c'est d'abord de s'exprimer librement, l'Algérie est un de ces pays arabes où, surtout après la mort de Boumediene, on a parlé avec la plus grande liberté. Je me souviens de ma mère, avant la mort de Boumediene, qui me disait, dans sa petite maison, qui est au bord de la route nationale, où passe toutes les minutes un 5 tonnes, un camion, avec un bruit absolument infernal. Et quand elle entre dans le salon et qu'elle m'entend parler de politique avec mes frères, elle me dit « Ferme les fenêtres, on peut t'entendre. » C'est-à-dire « on », c'est qui ? La sécurité. Voilà. Ce concept de sécurité a disparu au niveau du mental, même s'il existe au niveau des structurels, bien sûr. Mais le grand problème de cette société, par exemple, qui est l'Algérie, même si c'est très spécifique, voici un modèle très intéressant où l'expression est vraiment d'une liberté parfois absolument étonnante, à tel point qu'on a essayé de mettre le holà pour ne pas toucher quand même à l'honneur de la personne, pour ne pas toucher à l'intégrité morale des gens, etc. etc. Mais le problème est le suivant, c'est que une expression libre, je parle de la population, pas de la presse, pas des médias, une expression libre, sans les conditions citoyennes pour transformer cette expression libre en une force politique ou des forces politiques, cela devient, à la longue, lorsqu'on est observateur, une manière diabolique de gouverner le pays, une gouvernance absolument diabolique, puisqu'on aura compris qu'il faut utiliser, pour conserver le pouvoir, un système de soupape. À tel point que j'ai entendu dire un homme politique en Algérie la chose suivante, c'est normal qu'en Tunisie ça a explosé le premier, parce que dans d'autres pays, en particulier l'Algérie, il y a trop de soupapes, alors qu'en Tunisie, il n'y avait aucune soupape.
Alors, nous allons passer la parole à la salle. Peut-être que Benjamin Stora voudra répondre à ce que vient de dire Ahmed Jebar, mais ça viendra, je pense, dans le fil de la discussion. Monsieur ?
Je vais vous demander d'attendre le
micro. Voulez-vous vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît ? Oui, enfin, j'ai deux petites règles d'usage. Un, se présenter.
Excusez-moi, Jean deux... Bourgeois, je n'ai aucune qualification.
Très bien, non mais voilà, c'est une parfaite présentation.
Ce n'est que... plusieurs fois dans ces pays.
Et deuxièmement, poser une question.
Oui,
ne pas faire un discours, parce que voilà. C'est quelquefois ce qu'on entend.
Pourquoi parle-t-on de l'histoire en ne partant pas du 19e siècle et de la césure de l'Empire ottoman, de la découpe, soit avant la guerre de 14, de l'Empire ottoman, et après la guerre de 14, en 18? Car en fait, ces nations, leurs frontières ont bien été construites par nous, l'Occident, entre Français et Anglais. Alors qu'au XIXe, il y avait une certaine unité et il n'existait pas de frontières réelles dans l'Empire musulman.
Oui, c'est exact. Peut-être que Benjamin Stora veut dire un mot sur la question.
Oui, c'est quoi la question ? Je n'ai pas bien compris.
La question, c'est est-ce qu'il est encore sensible dans le monde arabe la décomposition de l'Empire musulman faite par les Français et les Anglais ?
C'est-à-dire la nostalgie de la déposition du califat en 24 par Mustafa Kemal ?
Oui.
Je ne sais pas, c'est une question.
La question, est-ce que les États ont-ils des frontières naturelles telles qu'ils sont créées maintenant ?
Il y a plusieurs questions. Vous avez la nostalgie peut-être ou la mélancolie par rapport à l'empire musulman perdu et que peut-être on essaierait de retrouver à travers toute une série de mouvements politico-religieux. Ça, c'est une question. Vous avez une seconde question. C'est le découpage des frontières nationales à la faveur de la conférence de Berlin de 1885. Et là, c'est encore une autre question qui renvoie à une troisième question. C'est le découpage des frontières au lendemain de la colonisation et le principe de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation telle que le défend l'Organisation de l'Unité africaine jusqu'à aujourd'hui et qui vole en éclats aussi. Vous avez trois questions qui se chevauchent, qui vont de la nostalgie de l'Empire ottoman à la dislocation des frontières, enfin dislocation de la crise plutôt des frontières, issues de la colonisation ou dessinées par le colonisateur à travers le conflit du Sahara occidental, à travers la question de la Côte d'Ivoire, à travers le problème de la partition politique possible de toute une série de pays, y compris, pourquoi pas, je ne sais pas, la question de la Libye découpée en trois morceaux, etc. Donc, vous avez plusieurs niveaux de questionnement. Il est 8h10. Moi, si vous voulez, je peux reprendre maintenant chacun de ces points historiques et faire une conférence sur nostalgie de l'Empire ottoman perdu au Maghreb, redécoupage des frontières issues de la colonisation et repossession de la question nationale par les mouvements actuellement en cours. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi voulez-vous que je parle?
Non, mais en fait, il y a une question.
De quel chapitre voulez-vous que j'ouvre?
Il y a, je crois, une question simple, en fait, c'est, que voulait poser monsieur. Oui. C'est, est-ce que ces questions-là, est-ce que cet héritage historique est présent dans les esprits aujourd'hui? Est-ce que ça compte?
Mais tous les héritages sont toujours présents dans tous les esprits. L'identité des peuples, la mémoire des peuples, elle se fabrique avec différentes strates, avec différents combats, avec différentes défaites, avec différents héros, avec différentes. Ben c'est ça qui fabrique les mémoires des peuples, bien entendu.
Est-ce que les jeunes, est-ce que
ça
les
va
jeunes
de l'Empire ottoman perdu, jusqu'à l'Andalousie disparue, en passant par le rêve de la construction d'une nation arabe, et en même temps de la réappropriation d'une identité régionale, parce que c'est ça aussi qui fabrique les mouvements d'aujourd'hui, c'est les processus de réappropriation d'histoire plurielle qui passent aussi par la reconnaissance des régions. Ça aussi, c'est une discussion très importante à avoir. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur d'une même nation des liens nationaux qui doivent tenir compte des principes des petites patries. C'est-à-dire comment reconstruire du lien national aujourd'hui avec une histoire très complexe. C'est par exemple ce qui se passe notamment au Maghreb, mais pas seulement au Maghreb, hein, en Libye ou en Algérie, voire même au Maroc. Au Maroc, la question des provinces au Maroc est une question extrêmement importante, entre le Rif, le Sousse, je ne sais pas ici, le Sahara, bien sûr. Donc on a comme ça toute une question historique qui fabrique l'identité. Et donc le cœur de tout ça, qui fait à mon sens le lien entre tout ça, c'est comment on refabrique un lien national nouveau. C'est-à-dire le problème du néo-nationalisme politique, à mon sens, qui est posé aujourd'hui dans l'ensemble de ces pays. C'est-à-dire comment on refabrique et on va récupérer des emblèmes et des symboles nouveaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser au plus près. Et on ne peut pas se contenter de catégories, j'allais presque dire, anciennes, c'est-à-dire l'islam politique. Bien sûr que l'islam politique existe. Bien sûr que les courants islamistes sont enracinés dans l'histoire de ces pays, c'est-à-dire les frères musulmans, je ne sais pas, enfin, on ne va pas tous les décliner, il y en a. Mais le problème, c'est que si on raisonne encore avec les catégories de l'islam politique, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte le seuil qui vient de s'accomplir devant nos yeux. Donc il faut essayer de réfléchir différemment. C'est-à-dire le problème de l'islam politique, c'est qu'à mon sens, oui, c'est un parti important, mais il n'est qu'un parti parmi les autres aujourd'hui. Alors qu'avant, il y a 20 ans, il se prétendait comme le parti du peuple entier. Il pensait qu'il était le seul parti, de manière exclusive, pour parler au nom de toute la nation. C'était lui qui devait parler au nom de toute la nation. Et celui qui osait s'exprimer au nom de la nation sans lui était considéré comme traître. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à débattre de la possibilité d'avoir d'autres partis qui parlent au nom de la nation. Ça n'existait pas, ça. Donc il faut prendre la mesure de ce qui est nouveau sur le plan politique. C'est la question, disons, de ce qu'on appelle le parti du peuple entier. Comme il faut prendre en compte, si on veut parler des frontières, ça c'est très important, de la politique internationale. Là, on est directement dans un autre registre, mais tout aussi important. La division du monde en blocs, ça n'existe plus. Je veux dire, les rapports Est-Ouest, où on pouvait jouer d'un côté avec l'Union soviétique contre les États-Unis, ou inversement, on pouvait jouer des États-Unis contre le bloc socialiste, et vous aviez des États qui s'abritaient et qui jouaient comme ça successivement entre les différents blocs. Et bien, avec le monde multipolaire dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui depuis une vingtaine d'années, et avec le tournant que constitue l'élection de Barack Obama, dont on a encore sous-estimé l'influence et ce que ça a signifié sur le plan politique et idéologique, depuis 2007, on est rentré dans un monde nouveau, c'est-à-dire un monde multipolaire où on ne peut plus s'abriter derrière des jeux de puissance régionales, internationales, mais il va falloir compter sur ses propres forces et se redéfinir. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est valable pour les pays arabes, mais c'est valable pour la France. C'est valable pour l'Europe. C'est-à-dire se redéfinir complètement par rapport à ce monde nouveau dans lequel nous sommes entrés, où on ne peut plus s'abriter derrière le parapluie de telle puissance par rapport à telle autre puissance et en essayant de jouer les contradictions. Ça, c'était l'ancienne façon de faire de la politique. Il va falloir réfléchir maintenant à une nouvelle façon de faire de la politique.
Autre question ? Monsieur.
Oui, bonsoir, messieurs, dames. Je vous remercie infiniment pour tous ces propos enrichissants sur l'histoire arabe, la vision arabe de l'histoire.
Pouvez-vous vous présenter, s'il
vous
plaît ?
Je vais me présenter. Je commençais par remercier quand même les conférenciers, les débatteurs. Donc moi, je fais des recherches de manière indépendante sur le bassin méditerranéen, sur le plan historique, mais mes recherches se centrent sur les Juifs, hein, dont on a justement, manifestement, je n'ai pas entendu parler, que ce soit pour la Syrie, l'Égypte, j'ai entendu parler de Copte, de Berbère, etc. Bon, mais la minorité juive a existé dans les pays arabes, les pays dits musulmans. La question que je vous posais, c'est que finalement, ce que j'entends, d'après ce que vous me dites, l'identité arabe a-t-elle réellement existé ? Ou est-ce que finalement, elle n'a pas été effacée par un siècle, un siècle et demi de colonialisme ? Et l'identité qu'on a vue apparaître et dont a parlé Mme Kodmani, c'était finalement la destruction d'un État d'Israël jusqu'en 67, qui a posé un certain nombre de problèmes. Je voulais savoir si elle a existé, à quel moment elle aurait existé, parce que vous avez parlé d'archives et de sources qui sont assez souvent occidentales. Il y a très peu de sources en langue arabe sur le plan de l'histoire de ces nations. Et l'histoire coloniale est forcément, très souvent mensongère, nécessairement mensongère. Et je voudrais savoir la rationalité, comment vous placez la rationalité dans les pays islamiques, au niveau des droits de l'homme, etc. Comment vous pouvez voir évoluer la rationalité dans ces pays actuellement ?
Alors ça fait peut-être deux questions. Sur le quand y a-t-il eu une véritable identité arabe ? Est-ce que
je crois qu'elle, on ne la situe pas à un moment. Elle se tisse, elle se fabrique au cours de plusieurs siècles. Elle remonte au début de l'arabité, c'est-à-dire à la péninsule arabique, avant même le prophète Mahomet. Donc il y a une arabité qui précède l'islam et qui ensuite que l'islam va, par les conquêtes militaires et l'expansion économique et tout ce qui a été décrit tout à l'heure, se fabrique cette identité arabe, qui est une identité d'abord autour de la langue, ensuite une histoire commune. Et donc on ne peut pas donner une date pour cette identité arabe. Elle existe. Vous avez parlé des communautés juives, vous avez tout à fait raison. Elles existent davantage au Maghreb qu'elles n'existent encore dans les pays arabes. Les communautés juives sont parties, les pays, je veux dire, du Proche-Orient, les communautés juives sont parties en très grand nombre. Il reste des toutes petites communautés en Irak, en Égypte, en Syrie. Ça se compte par quelques milliers dans chacun de ces pays. Ce qui est intéressant, c'est que dans les périodes de prospérité intellectuelle, et dans la période actuelle, on a vu au cours des 5 dernières années, ça je l'ai moi-même constaté en Égypte, comme vous savez, les Juifs d'Égypte sont partis en grand nombre, ont perdu leurs biens, puis ensuite ont été compensés en partie pour certains biens, mais enfin, ce n'est pas une histoire heureuse depuis la création de l'État d'Israël, et la méfiance à l'égard de toutes les communautés juives dans les pays arabes était considérable. Or, on a vu quelques personnalités juives qui avaient participé de la vie politique et intellectuelle de l'Égypte, honorés par d'autres, honorés par les autres, les non-juifs, si vous voulez, comme étant des personnalités qui ont contribué à l'histoire intellectuelle du pays. Alors, c'était tout à fait symbolique, bien sûr, ça concernait quelques individus, mais c'était tout de même assez encourageant parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait malgré tout une reconnaissance d'une part d'histoire, d'une réalité qui a bien été celle de l'Égypte et qui, pour une communauté éclairée, et je ne vous dis pas que la masse est en mesure de reconnaître cela, mais que dans une communauté intellectuelle, on voyait cette reconnaissance de certains, par exemple, de personnalités qui avaient joué un rôle important dans le Parti communiste ou dans la littérature ou dans l'art, des peintres. Bon, c'était des personnes qui étaient de religion juive et qui ont été honorées par les autres. Ça, c'était un aspect encourageant. Alors, vous faites allusion à beaucoup de choses en même temps. Je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire quand vous dites la destruction de l'État d'Israël en 67. J'ai parlé d'un traumatisme du côté arabe parce qu'il y avait des terres occupées. Donc, non, l'identité arabe. Non, l'identité arabe, elle est bien plus ancienne, bien, bien plus ancienne que la création de l'État d'Israël. Je crois que depuis une heure, nous parlons tous du départ de l'islam, donc du prophète. Si on remonte à 632, c'est qu'on est bien en avant la création d'Israël. Donc la question de l'identité arabe ne s'est pas faite contre Israël. Ensuite, l'arrivée d'Israël est un traumatisme qui unit bien sûr les pays autour d'Israël et qui considère qu'il y a une part de terre arabe et musulmane qui est spoliée et qui est occupé par un État illégitime. Ça, on ne le niera jamais. C'est effectivement ce qui s'est passé depuis la création d'Israël jusqu'aux accords de paix qui sont en train d'être conclus. Et on espère qu'on ira jusqu'au bout. Enfin, vous avez fait allusion, je crois, à la question de la rationalité. Je n'ai pas de réponse. Voilà.
Moi, j'ai une réponse sur la rationalité.
Parce que je refuse de répondre.
Et j'invoque l'histoire. La rationalité n'est pas l'apanage ni de l'Occident, ni de la Grèce, ni de l'Asie. Tout peuple qui, à un moment donné de son histoire, dans des conditions objectives de développement, est amené à produire, à avoir une production intellectuelle, il produit en même temps les outils de cette production. Et parmi les outils de cette production, il y a évidemment les outils artistiques, et il y a les outils qu'on appelle les outils de la rationalité. Soit des outils de la rationalité au sens général, à la manière philosophique, à la manière historique, soit les outils de la rationalité technique, à la manière mathématique, astronomique, etc. Vous prenez n'importe quel peuple. Quand il atteint ce stade de développement d'une production originale dans différents domaines, soit technologique, soit scientifique, soit philosophique, eh bien, il produit de la rationalité. Même quand il produit une réflexion religieuse, il produit une forme de rationalité. Et donc, s'il vous plaît, il faut arrêter maintenant de sectoriser, de mettre des espaces géographiques qui sont plus privilégiés dans la production de la rationalité. Et en plus, sans être polémique, si on commence avec ce discours, eh bien, les historiens jusqu'au XIVe siècle ont nié la possibilité d'existence d'une rationalité en Europe parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas les moyens et qu'ils n'auront jamais les moyens de pouvoir produire une rationalité en Europe. Parce qu'ils avaient une vision du monde qui était telle que le monde musulman a produit une rationalité religieuse, une rationalité scientifique, en particulier pour la rationalité religieuse, c'est le prolongement du monothéisme, des deux monothéismes, et la rationalité scientifique et philosophique, parce que c'est le prolongement direct de la rationalité grecque, à laquelle ils ont ajouté une rationalité qu'on appellerait plutôt technologique expérimentale, c'est la rationalité indienne et mésopotamienne. Et ils disaient, d'une certaine manière, l'Europe ne sera pas prête pour à la fois assimiler ces outils et surtout les maîtriser, s'approprier ces outils et produire une nouvelle rationalité. Et donc, vous voyez, ce discours-là existait déjà depuis le XIIe, XIIIe siècle. Et l'histoire, évidemment, a démenti complètement cela. L'Europe a produit une nouvelle rationalité à partir du moment où elle s'est instruite des rationalités des autres. Elle a, dans cette instruction, dans cette assimilation, cette appropriation, on ne récupère pas toutes les formes de rationalité. Pour des tas de raisons très complexes, on élimine certaines formes de rationalité et on adopte d'autres. Alors l'Europe a adopté la rationalité qu'on appelle aujourd'hui chez les spécialistes la rationalité gréco-arabe, c'est-à-dire d'origine grecque, mais développée par la tradition scientifique et philosophique des pays d'islam, d'abord à Bagdad, puis dans les grands pôles scientifiques de l'espace musulman. Et bien sûr, ça n'empêche pas les polémiques. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2008, il y a encore des universitaires respectables qui publient des livres qui essaient de démontrer que les rationalités sont cloisonnées et que si on accepte le principe de rationalité produit dans pays d'islam, eh bien, la nature de cette rationalité fait en sorte que elle ne peut pas intéresser les Européens et elle ne peut pas aider les Européens à produire une nouvelle rationalité. Et que la seule rationalité valable et acceptable de l'Europe, c'est celle qu'on aurait héritée directement de la Grèce, ce qui est une erreur historique, totalement, une absurdité même historique. La rationalité grecque a atteint l'Europe essentiellement à partir du XIIe siècle, malgré la présence de tout Aristote au Mont-Saint-Michel, à partir des traductions des ouvrages grecs qui étaient en arabe, de l'arabe au latin. Et surtout, ce n'est pas tellement à travers les traductions, à travers une médiation importante qui était les commentaires d'Averroès sur les textes d'Aristote.
Alors, une autre question.
Un mot quand même sur le problème de la fidélité dans le monde arabe, parce que c'est quand même une question importante. Simplement, ce que je dirais, c'est que les Juifs ont vécu dans le monde arabe pendant près de 2000 ans, même plus. Y compris en terre d'islam, très longtemps, et leur disparition de ce qu'on appelle les terres d'islam participe de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question de la pluralité. C'est-à-dire que la disparition de minorités religieuses en terre d'islam participe de l'appauvrissement de l'espace politique, démocratique, c'est évident. C'est-à-dire que c'est une question très importante. Et dans les récits nationaux reconstruits, manuels scolaires ou autres, l'absence de l'existence de la minorité juive est tout à fait symptomatique aussi de l'appauvrissement, je ne vais pas dire intellectuel, mais politique, c'est-à-dire au sens de cette réappropriation de l'espace public. Alors, ce qu'évoquait Basma tout à l'heure sur l'Égypte est très important, renvoie à une deuxième question très importante. C'est que l'histoire de la minorité juive dans le monde arabe, c'est bien sûr la question du rapport à l'État d'Israël, mais c'est aussi le rapport à la construction des partis communistes. Dans beaucoup de pays du monde arabe, les Juifs ont été à l'origine de la création des partis communistes. Ça, on l'oublie, et ça a été évacué aujourd'hui. Et il faut savoir, de mon point de vue, que l'écrasement des partis communistes dans le monde arabe dans les années 70, dont on a mal mesuré les effets, c'est entre 1965 et 1980, pour aller vite, jusqu'à la guerre civile libanaise, l'écrasement des partis communistes a été très, très important dans le fait de favoriser l'expansion de l'islam politique. Et je crois que l'écrasement des partis communistes au Soudan, qui était extrêmement important, en Irak, extrêmement important, en Égypte, extrêmement important, en Algérie, après le coup d'État du 19 juin 1965, je suis obligé de donner tous les pays les uns derrière les autres, si on fait la chaîne de l'écrasement et de la liquidation physique et du départ des communistes, dont beaucoup d'ailleurs étaient des dirigeants qui étaient des juifs, qui avaient construit ces partis communistes, je pense par exemple à des gens comme Henri Curiel, etc., fait que cet affaiblissement, il faut le réévaluer aujourd'hui, il faut rediscuter là-dessus. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre l'épanouissement de l'islam politique. Parce que le Toudé en Iran, parce que si on quitte la zone arabe pour aller un peu plus vaste, le Toudé en Iran était un énorme parti communiste. Ça, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'est un énorme parti communiste. Le Toudé, qui organisait en particulier les principaux syndicats ouvriers du pays. Et le parti communiste soudanais était un énorme parti communiste. Ce n'était pas un petit parti, vous savez, comme on a tendance aujourd'hui à considérer ces partis communistes comme étant très marginaux, etc. Alors, quand je dis communiste, c'est au sens générique, parce que ça veut dire au sens laïque du terme. Hein, c'est très très important. C'est-à-dire que l'appauvrissement, la disparition à la fois de l'existence d'une minorité juive liée à l'histoire de l'islam pendant des siècles et l'écrasement des partis communistes, c'est-à-dire du retrécissement en fait, du champ pluriel de l'analyse politique, c'est ça qui peut, entre autres, hein, ce n'est pas le seul facteur, bien entendu, mais qui nous permet aussi de comprendre comment les séquences historiques se sont réellement passées. Parce que sinon, c'est incompréhensible. Si on ne fait pas d'histoire, on a le sentiment d'une espèce de fatalisme, d'irrationalité, de persistance, disons, du tout religieux dans la conduite des sociétés. Mais il faut faire de l'histoire réelle. Hein, l'histoire réelle, c'est aussi des séquences d'histoire réelle où, effectivement, la pluralité politique, elle existait et elle a été combattue, détruite physiquement. Il fallait être détruite physiquement. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'une fois qu'ensuite le champ politique est en ruine, eh bien oui, vous avez des partis qui se lèvent au nom du parti du peuple entier et qui se substituent, disons, à d'autres formes d'organisation sur le plan nationaliste. Moi, j'essaye hein, de raisonner en termes de séquences historiques hein, qui viennent comprendre, disons, les mécanismes tels qu'ils se déroulent réellement. Parce que sinon, on a affaire à une sorte d'essentialisme hein, sur le plan religieux, sur le plan philosophique, etc. Mais ce n'était pas donné. Cette histoire n'était pas écrite d'avance. Voilà.
C'est très intéressant, ça. Une question oui. Là-bas.
Oui, bonsoir tout le monde. Je suis d'accord avec cette séquence de Benjamin Stora, mais l'autre séquence sur le drapeau,
Pouvez-vous vous présenter, monsieur,
alors,
s'il vous plaît.
Je suis. Qui suis-je? Je suis un travailleur immigré, en fait, voilà, résident en France depuis une trentaine d'années. Et j'aimerais bien, en fait, poser une question. Je suis venu, en fait, ici avec une question dans la tête. Je me disais. Est-ce que, et je m'étonne d'ailleurs en fait que le terme hein, n'est paru que dans la bouche de Ahmed Jabbar. Et lorsqu'il a parlé justement de ces termes-là, c'était juste pour coller à l'espace algérien. Et il a utilisé à plusieurs reprises le mot spécificité, spécificité, spécificité algérienne. Et je me disais, en fait, est-ce qu'il y a une spécificité arabe, si oui, en fait, quelle est sa définition et quels sont, en fait, les chercheurs, ça veut dire les anthropologues, les sociologues, et, qui l'ont définie, et est-ce qu'elle a été vraiment creusée? C'est pour élargir un peu la question d'identité, parce que je ne suis pas d'accord, en fait, avec les termes dans lesquels la question s'est posée, du monsieur qui a posé la question de la rationalité. Dans la mesure où la rationalité, il y a un grand poète arabe, Al-Ma'arri, en fait, un dixième siècle de Syrie, qui disait lumineusement, en fait, un vers de poésie. Dans la poésie, il y a beaucoup de connaissances, en fait, et c'est un plat, il y a un patrimoine à creuser, justement, pour voir la portée scientifique dont parlait un peu Ahmed Jabbar, en fait, qui pourrait faire avec l'économie la spécificité, peut-être, un peu de cette ère de civilisation. Et Mar, il disait, je vais essayer de traduire en français, et je le dirai en arabe pour les arabisants, pour la beauté en fait du vers. Il disait, il y a deux sortes de gens sur terre. Ceux qui ont la raison sans religion, et ceux qui ont la religion et manquent de raison. En fait, il pointe là une question éminemment moderne, qui veut dire que la rationalité... Il ne faut pas en faire une religion non plus. En arabe, Ethnani ahlul ardi, ذو عقل بلا دين, وآخر دين لا عقل له.
C'est en effet très moderne. C'est du Xe siècle. Bon, c'est pas vraiment une question, mais c'est une constatation. C'est sur la spécificité. Mes honorables invités sèchent. C'est ça.
Il me semblait que la question était adressée à...
Non, moi je n'ai parlé de spécificité concernant l'Algérie que dans une vision historique des choses, c'est-à-dire que cette partie de l'ancien empire musulman ou de la maison de l'islam a des choses en commun avec tous les peuples qui ont vécu cette histoire, et puis elle a des spécificités liées à l'histoire moderne, en particulier même au Maghreb, nous savons que les Ottomans vont contrôler la partie qu'on appelle l'Ifriqiya, la partie le Maghreb central, et ils ne vont pas contrôler le Maghreb extrême. Voici une spécificité, parce que, du moins, voici une raison qui va créer une dynamique, qui va donner une spécificité, qu'il est très long, qui serait très long d'analyser dans tous ces aspects, sans porter de jugement de valeur, d'ailleurs, sur la manière dont les Ottomans ont gouverné ces régions périphériques de l'Empire ottoman. Mais je considère que dans une vision globale de l'histoire de toutes ces populations, elles ont beaucoup de points en commun, mais qui ne sont pas mis en valeur ni à l'intérieur de ces pays par une écriture de l'histoire qui n'est pas très bonne, un enseignement de l'histoire qui est catastrophique dans toutes les régions, ni a fortiori à l'extérieur, en prétextant d'ailleurs toujours à l'extérieur, eh bien c'est pas notre faute, les Arabes n'écrivent pas, ou bien les Arabes ne traduisent pas. Vous savez, nous avons aujourd'hui recensé à la louche 5 millions de manuscrits qui existent encore physiquement, et on considère que ces 5 millions ne représentent peut-être que 10% de ce qui a été produit entre le 9e siècle et le 17e siècle. Bien. Et donc vraiment, un des espaces dans cette terre où nous sommes qui a produit des choses intellectuelles, c'est l'espace musulman, quelles que soient ces choses, c'est-à-dire des produits religieux, théologiques, poétiques, littéraires, scientifiques, techniques, etc., historiques, bien sûr. Et je peux par une boutade vous dire que si on commençait à traduire les ouvrages d'histoire, beaucoup de musulmans ont écrit leur histoire, beaucoup d'arabes ont écrit leur histoire, les ouvrages d'histoire, eh bien, ils étaient tellement prolifiques, ces auteurs et ces historiens, que n'importe qui se découragerait pour faire les traductions, parce que le moindre historien a écrit des ouvrages un ouvrage qui dépasse 3 volumes, 4 volumes, 5 volumes, etc. L'un des derniers, Ibn Khaldoun, qui a écrit son histoire des peuples en 14 volumes, l'histoire des Berbères, des Arabes, etc., des Ajams, de manière générale, en 14 volumes, la seule introduction fait 1000 pages. Et c'est, oui, effectivement. Oui, bien sûr. Oui, 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 oui.
Alors, est-ce que vous pouvez parler dans le micro,
Benjamin Stora dit oui, mais ça, c'est le 14e siècle. Oui, mais moi, je parle de la mémoire, bien sûr, et ce qui en est parvenu. Et donc, ce qui m'attriste, c'est que cette mémoire elle-même, elle n'est pas connue aujourd'hui, puisque la mémoire est quand même importante pour essayer de connaître un peu le passé et pour essayer de construire quand même son présent et son avenir. C'est une formule un peu consacrée, mais c'est un peu vrai. Nous avons des millions de citoyens dans ces pays arabes et musulmans qui ne connaissent pas leur histoire et a fortiori qui ne connaissent pas l'histoire de leurs voisins. Ça, c'est un des éléments dont il faut tenir compte.
Une autre question ?
Ici, madame.
Oui.
Je m'appelle Françoise Marolle et je suis enseignante, enfin ancienne enseignante, je suis à la retraite. Pour prolonger la question qui vient d'être abordée, je m'interroge personnellement, et je vous pose la question, du poids du Coran dans tous les enseignements d'arabes. Bon, moi, je les connais en France. Enfin, je les connais, je ne suis pas enseignante d'arabe, j'étais enseignante de lettres, mais j'ai l'impression que ces grands textes dont vous parliez, dont certains sont traduits, existent et qu'ils sont d'un poids bien moindre que les versets du Coran quand il s'agit de l'enseignement de la langue arabe. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'il n'y a pas un poids excessif de ces textes religieux ? Et est-ce que, d'une manière générale, ma question, c'est la possible laïcité ? Je pense qu'elle est possible et que les mouvements actuels montrent que cette laïcité, je m'en réjouis, apparaît comme un mouvement important. Mais est-ce que cette laïcité des États futurs du monde arabe ne sont pas freinées par ce poids excessif dans l'enseignement, dans les esprits de textes, de pratiques qui partent presque exclusivement du Coran.
Qui veut répondre? Oui.
Réagir simplement pour dire la chose suivante. Là aussi, le poids ou la présence ou l'influence excessive des textes religieux est une réalité, est une conséquence aussi d'un système politique autoritaire. Et je disais tout à l'heure, on ne dira jamais assez combien les religieux ont investi l'espace public, les médias, la production culturelle, la production intellectuelle, de telle sorte que dans les... il suffit de voir que tout ce qui est production du début du siècle, du début du XXe siècle, qui est justement inspiré des Lumières, des valeurs occidentales, de la modernité occidentale, que beaucoup, beaucoup d'intellectuels arabes ont épousé, ont adopté, ont embrassé et ont considéré que c'était le début du réveil arabe au début du XXe siècle. La Nahda, c'est un mouvement qui est fondé principalement sur des valeurs occidentales. Or, les auteurs de cette époque-là, on a le plus grand mal à trouver les ouvrages. Ils ne sont pas réédités. Parce qu'il y a, si vous voulez, il y a presque un phénomène de lobby des institutions religieuses qui s'introduisent dans absolument tous les domaines de tout ce qui est producteur d'opinion, si vous voulez. Tout ce qui fabrique l'opinion publique, ils sont présents. C'est les ministères de la culture, le ministère de l'éducation, c'est les médias, la télévision, les radios, les journaux et la production culturelle et artistique. Et l'instauration, l'émergence d'une espèce de censure de ces instances religieuses qui, au nom d'une certaine moralité et le plafond ne fait que baisser parce que la tolérance se réduit, il y a un enfermement et une réduction de l'espace de liberté, et il n'est pas uniquement un espace de liberté politique. C'est les politiques qui commencent par réduire l'espace des libertés et ensuite les religieux qui entrent et qui réduisent encore plus l'espace de liberté au nom d'une morale qu'il faudrait adopter pour tout le monde. Donc voilà ce qui est arrivé à la laïcité. Et lorsqu'on demande aux jeunes arabes, et pas seulement aux jeunes, aux moins jeunes aussi, tous les jeunes de moins de 30 ans ne connaissent pas les auteurs. Moi-même, j'ai voulu chercher les ouvrages de ces auteurs modernes du début du XXe siècle. Je rentrais dans les librairies au Caire et je ne les trouvais pas. Les libraires eux-mêmes ne les connaissaient même pas. Il a fallu donc que je tombe sur un très vieux monsieur qui m'envoie chez les bouquinistes dans un quartier lointain parce que ce serait là que je trouvais. Et c'est effectivement là que je les ai trouvés. Donc, la non-réédition, vous trouvez dans les librairies affichés des Corans, des textes religieux, des explications du Coran, on trouve essentiellement ça. Alors c'est cette désertification intellectuelle qui est effectivement un appauvrissement considérable et qui a nuit à tout ce qui est valeur plurielle, laïque et bien entendu tout ce qui est tolérance vis-à-vis des autres communautés. Il y a une connivence, ça c'était une connivence entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, parce que ça arrange le politique que les religieux tiennent un discours qui endorme, qui anesthésie la population. C'est une très bonne façon d'empêcher le mouvement politique.
Peut-être une dernière question avant que nous nous séparions.
Une dernière question? Oui.
De préférence, quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Oui, à moins de 25 ans, peut-être.
Tout juste. Bonsoir. Je suis Zahira, une simple citoyenne. Donc, moi, je voulais juste, par rapport à ce qui se passe actuellement, on a parlé, on a évoqué là plusieurs notions d'histoire, de science, mais vous pensez que les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui, et qui réclament la démocratie, sont conscients de tout ce qu'on vient de dire. Parce que moi, à mon avis, et d'après ce que je vois autour de moi, les jeunes, avec les communications qu'il y a aujourd'hui, n'aspirent qu'à une seule chose, de vivre comme tous leurs copains qu'ils ont sur Facebook, d'avoir un iPhone, un iPod, d'avoir un téléphone portable, de pouvoir vivre travailler, habiter quelque part. Aujourd'hui, le problème de la démographie en Algérie, au Maroc et en Tunisie fait que 70% de la population a moins de 25 ans. Elles ne trouvent pas où habiter. Ils peuvent pas se marier parce qu'ils n'ont pas de logement. Je ne sais pas si vraiment ils ont conscience de tout ce dont on vient parler. On peut analyser comme ça de loin les situations et les mouvements, mais aujourd'hui, ces gens-là, et ces jeunes surtout, ne pensent pas à tout ça. Ils sont... Moi, je vois ça comme une rétrospective un peu... On est revenu en arrière, 62 pour l'Algérie, l'indépendance, parce que tous les mouvements de libération nationale ont un caractère étatique. Ils ont effacé toutes les expressions différentes et tous les partis qui existaient, donc pour être unis face à la colonisation, pour avoir une indépendance. Donc ils se sont un peu entretués pour avoir le pouvoir. On les a laissés gouverner et soutenus par le néocolonialisme. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils adressent un seul message à ces dictateurs. Vous avez suffisamment rempli les poches. Vous avez quand même vous avez suffisamment pillé le pays. Aujourd'hui, laissez la place aux jeunes. Laissez la place aux jeunes pour vivre, se marier, trouver un travail. Et je ne pense pas qu'ils sont vraiment en train de réfléchir à la place du Maghreb et dans la Méditerranée et dans l'Occident et par rapport aux relations économiques et politiques. Nous, on est de loin en train de tout analyser de cette façon. Bon, mais je ne pense pas qu'eux, ils sont vraiment imprégnés de tout ça.
Et vous savez, madame, les révolutionnaires de 1789 ne pensaient pas du tout à tous ces problèmes quand ils ont lancé leur mouvement contre la royauté.
C'est le propre de toutes les révolutions, hein. C'est de pas avoir des programmes en tête achevés en disant voilà ce qu'on va faire, etc. Et c'est le propre aussi du travail intellectuel de pouvoir réfléchir aux mouvements qui sont en cours. C'est logique. Je veux dire que les acteurs rentrent dans l'histoire avec les habits du passé et puis ils vont progressivement enlever ces habits du passé pour avoir et chercher et se tailler des costumes nouveaux. Et ça, c'est des mouvements pratiques, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer ce soir, si vous avez bien entendu. Ce qu'on a essayé, hein, je ne dis pas qu'on a réussi, mais on a essayé d'expliquer que les mouvements, ils étaient consuméristes, individualistes, fractionnés. On a essayé, on a fait le travail d'intellectuel, comme on peut, hein. On essaye un peu de bricolage, quoi, mais c'est difficile, c'est sûr.
Merci.
On n'est pas sur le terrain, c'est vrai.
Je pense qu'on va clore ce débat si personne ne veut poser d'autres questions. Merci Olivier Postel-Vinet, merci Basma Kone.
Il y a un jeune homme qui insiste depuis quelque temps pour poser une question, mais vraiment
la dernière question
est courte, une question courte avec un point d'interrogation.
Bonsoir. Je m'appelle Nasser, j'ai 24 ans, je suis étudiant. Et j'ai une question assez courte, mais la réponse pourrait être longue. Donc je vous présente mes excuses. Vous parliez tout à l'heure de l'histoire des Arabes, aussi différente puisse-t-elle être pour chaque pays. Mais maintenant, la question qui se pose, et moi la question que je me pose, cette histoire-là, elle a été instrumentalisée par les différents pouvoirs qui ont été en place. Quelle histoire doit-on maintenant apprendre aux Arabes? Et ça, c'est, je pense, c'est une bonne question.
Ben, la réponse est dans la rue. Hein. L'histoire est en train de s'écrire. Voilà.